a connu le totalitarisme nazi et le totalitarisme soviétique avec leurs millions de morts. Aujourd'hui, comme l'explique dans son dernier livre Mathieu Bock-Côté, nous faisons face à un nouveau totalitarisme. Un totalitarisme sans goulag, qu'on appellera le totalitarisme diversitaire. Mais attention, français pessimistes, ce nouveau totalitarisme ne doit pas nous faire baisser les bras. Au contraire, nous avons tout pour y faire face, et c'est pas moi qui le dis, c'est le Québécois le plus amoureux de la France, Mathieu Bock-Côté. Bonjour Mathieu Bock-Côté, merci d'avoir accepté notre invitation.
Eh ben merci à vous.
Alors, vous venez de sortir votre dernier livre, Totalitarisme sans le goulag, aux éditions Presse de la Cité. Et alors, question toute simple pour commencer, qu'est-ce que signifie le totalitarisme sans goulag ?
Alors, notre rapport au totalitarisme est commandé évidemment par le XXe siècle. C'est là qu'il s'est dévoilé, on peut dire qu'il trouve ses origines avant, 1793 de l'annonce assurément. Lénine voyait en 1793 ses grands ancêtres, mais cela dit, le XXe siècle nous le présente de manière absolument monstrueuse, avec d'un côté la barbarie atroce du nazisme, du Troisième Reich, et de l'autre côté l'URSS, dont la marque distinctive pour plusieurs était le goulag. Le goulag, c'est-à-dire des camps de rééducation à grande échelle, des camps de travail, qui étaient au cœur du système répressif de l'URSS. Et l'erreur que nous avons faite, c'est qu'on a cru qu'avec la chute du mur de Berlin en 1987, le cycle totalitaire de la modernité s'était une fois pour toutes fermé. La question totalitaire ne se posait plus, sauf pour les historiens. Et on a oublié, je crois, que la marque distinctive du totalitarisme ne se trouvait pas nécessairement dans les systèmes de barbarie atroces l'un comme l'autre que nous avons connus. Quel est le propre du totalitarisme ? C'est, on présente une conception religieuse de la politique. C'est la prétention à monopoliser pour un camp. Le vrai, le juste, le bien et le beau, le confisquer pour soi, dès lors, et être le parti de l'humanité, le seul parti de l'humanité, porteur d'une utopie. Une utopie, c'est-à-dire la prétention à faire une société parfaite délivrée du mal. Si vous avez une doctrine qui délivre la société du mal, qui arrache le mal du cœur de l'homme, qui fait en sorte que le mal ne se pose plus, nous aurons la société idéale, mais si vous avez des adversaires, ce sont des ennemis de l'humanité. Au pire, on l'a vu au XXe siècle, vous les éliminez physiquement. Dans nos sociétés, ça fonctionne autrement. On décide de les condamner à la mort sociale, à la périphérie de l'existence sociale. On les annule, on les cancelle, on dit aujourd'hui. On cherche à les bannir, à les déchoir de leurs privilèges ou de leurs droits civiques. On les transforme en moins que rien. On les voit comme le bois mort de l'humanité. Donc le totalitarisme sans le goulag, c'est quoi? C'est la tentation totalitaire qui, dans la modernité, s'est réactivée. À partir d'une nouvelle utopie, qui n'est plus l'utopie communiste évidemment, mais qui est l'utopie diversitaire. L'utopie diversitaire, c'est fondamentalement le monde occidental, de 1492 à aujourd'hui, mais certains font remonter ça à Homère. Le monde occidental, fondamentalement, serait un complexe de systèmes discriminatoires servant à marginaliser, à persécuter toutes les minorités. Et aujourd'hui, les temps présents pour permettre à ces minorités d'émerger, et à l'homme occidental lui-même, qui serait aliéné par sa position dite hégémonique, il faut entreprendre la déconstruction de tous les systèmes normatifs, de tous les systèmes culturels, de tous les systèmes politiques qui nous caractérisent. Et là, ça va donc de la déconstruction de la culture générale, du rapport à la philosophie, jusqu'à la déconstruction du langage, jusqu'à la déconstruction de la division sexuelle, c'est-à-dire la distinction entre l'homme et la femme, avec cet élément central à tout totalitarisme, c'est que la société est vue comme étant une pure construction sociale. Il n'y a pas de nature, il n'y a pas d'âme humaine, il n'y a rien de tout ça. Donc, c'est une pure construction sociale. Donc, on peut tout déconstruire pour tout reconstruire. Et quelle est la place dans tout cela, parce que c'était l'essentiel de la théorie du genre, c'est que ça dit que si même les sexes sont de pure construction sociale, sans fondement de la nature ou la biologie, mais alors tout est artificiel, et tout peut dès lors être manipulé par un pouvoir, et si tout peut être manipulé par le pouvoir, il ne s'interdira rien.
Est-ce que du coup il y a un nouvel homme nouveau? Et
absolument.
Qui est-il?
Alors, le nouvel homme nouveau qui est-il, c'est l'homme, on a connu l'homme communiste évidemment, aujourd'hui c'est l'homme liquide, l'homme désaffilié de toutes les appartenances, l'homme qui ne porte plus en lui justement la marque de la filiation, c'est l'homme auto-engendré, c'est l'homme qui ne doit rien au passé, rien à la nature, rien à sa propre nature, et qui se crée en fonction de sa propre volonté. C'est une subjectivité absolue et tyrannique. Donc, c'est justement, c'est l'homme qui va aller jusqu'à choisir son propre sexe. J'y reviens. Si on ne comprend pas que cette question est probablement la plus importante du régime actuel, cette idée qu'on peut congédier jusqu'à son propre corps et n'exister que dans son ressenti du moment, qu'on va institutionnaliser et on va obliger tout le monde, par ailleurs, à le reconnaître, on ne comprend rien au régime actuel. Donc oui, je pense que l'homme qui se croit sans préjugés, l'homme qui se croit délivré de la nature, de l'histoire, de la culture, mais cet homme, comme tout Comme chaque fois, l'homme nouveau est un homme dissocié. C'est devenu un homme étranger à sa nature, un homme étranger à sa civilisation, étranger à son pays, étranger à sa famille, étranger à la culture, étranger à sa langue. Parce que même la langue qu'il parlait, il n'y a plus accès parce qu'elle doit passer par le filtre de l'écriture contrôlée inclusive, qui est la nouvelle langue de notre temps, et étranger à son propre sexe. Donc là, et on voit aujourd'hui nos sociétés, je pense qu'il y a un effondrement psychique généralisé dans les sociétés occidentales, et on le voit un peu partout, cet effondrement, où les gens n'ont plus de contact avec le réel. Puis on s'entend, il y a toujours des cas d'exception qui méritent toute notre considération. Mais quand on cherche, je parle sur le plan de la question de l'identité de genre. Il y a toujours des exceptions. Moi, j'accepte l'idée de l'exception. Mais quand on cherche à mettre dans la tête de tous que la norme, c'est se questionner jusqu'à son... Est-ce que mon anatomie ne serait pas finalement une espèce de carcasse réactionnaire qui m'enfermerait dans une définition de moi-même trop contraignante? Ça, c'est un immense problème parmi d'autres. Donc, je pense qu'on a une société qui fabrique aujourd'hui une dissociation généralisée. L'homme nouveau est un homme dissocié.
Est-ce qu'il y a une réflexion particulière au choix du mot « goulag » plutôt que camp de concentration, par exemple?
Ben, il y a deux choses. Je pense qu'on a retenu les leçons du nazisme. Fondamentalement, nos sociétés ont compris l'horreur absolue du nazisme, qui culmine évidemment non seulement dans des camps de concentration, mais des camps d'extermination. Ça, nous avons compris la nature de ce projet d'extermination maléfique. C'est la volonté non seulement de rayer un peuple de l'histoire du monde, mais de rayer jusqu'au souvenir de ce peuple de l'histoire du monde. C'est quand même c'est atroce, c'est luciférien, on pourrait dire. Je ne suis pas certain qu'on a retenu la leçon du communisme. On continue de voir dans le communisme quelque chose comme un système...
Un certain romantisme.
Ça s'est mal passé, mais ça aurait pu se passer autrement. Comment de si nobles intentions ont pu donner un système aussi déréglé? Est-ce qu'en d'autres circonstances, ça ne pourrait pas donner autre chose? Donc, je pense que la leçon de l'expérience soviétique n'a pas été retenue. La leçon de la Chine communiste n'a pas été retenue. Je donne deux exemples. Exemple 1, voyez ces dernières années les autocritiques publiques à répétition de gens qui sont globalement en désaccord avec l'idéologie dominante ou à tout le moins qui trébuchent, qui dérapent sur l'idéologie dominante et là qui doivent s'autocritiquer publiquement pour être réintégrés en société. Exemple typique, quelqu'un remet en question en Amérique du Nord la théorie du racisme systémique. Aïe, aïe, aïe. Donc là, il peut perdre son emploi, il peut perdre ses postes, il peut perdre sa position en société. Donc pour ne pas rien perdre de tout ça, il dit « Je n'avais pas compris ». Jusqu'alors, à quel point ce que j'ai dit est horrible et raciste. Je n'avais pas compris mes propres privilèges. D'autant que moi-même, en tant qu'homme blanc hétérosexuel, j'ai tant de privilèges. Je me suis donc tourné vers mes amis racisés, c'est le vocabulaire, pour leur demander de m'expliquer la situation. Ils m'ont éclairé sur mes propres privilèges, donc je dois me rééduquer. Mais je ne peux pas leur demander de me rééduquer parce qu'ils sont déjà trop chargés par leurs propres conditions minoritaires, donc je dois me rééduquer moi-même. Arrivé au terme de cette rééducation, je pourrais être intégré en société, tout en sachant que ce ne sera jamais définitif parce que je porte en moi une civilisation qui peut toujours m'amener à chuter de nouveau, à déraper de nouveau. Et de quelle manière pourrais-je devenir un citoyen exemplaire en dénonçant désormais ceux de mon groupe qui n'ont pas encore connu ce processus critique? Ça, l'héritage maoïste est très clair. De la même manière, tout le discours sur la haine aujourd'hui, c'est absolument fascinant. Alors, la haine, c'est mal. Vous détestez la haine, je déteste la haine, on déteste tous la haine. Mais le concept de haine aujourd'hui est utilisé de quelle manière? Il sert globalement à nommer tout discours en désaccord avec l'évolution diversitaire de nos sociétés. Vous êtes contre, par exemple, la présence de drag queens, qui sont des hommes déguisés en femmes hypersexualisés, pour lire des contes à des enfants de 5-6 ans dans des bibliothèques scolaires. Vous êtes haineux. D'ailleurs, c'est le nouveau visage de l'extrême droite. Vous êtes haineux. C'est fascinant. Alors là, le concept de haine aujourd'hui sert en fait à disqualifier, à frapper d'interdit tout désaccord avec l'idéologie dominante. De la même manière, cette idée qu'il y a une ligne correcte. Le propre de l'idéocratie, c'est quoi? C'est que non seulement il y a une idéologie dominante, mais on ne peut même pas se contenter de la tolérer en restant silencieux. Il faut envoyer des marques ostentatoires d'adhésion à ce régime en acceptant les différents dogmes qu'il nous propose. Par exemple, la diversité est toujours une richesse. Par exemple, il faut toujours s'ouvrir à l'autre. Moi, j'ai toujours dit s'ouvrir à l'ouverture à l'autre, certes, mais de quel autre parlons-nous et de combien d'autres parlons-nous? Autre thèse à laquelle on doit adhérer, un homme peut être enceinte. Rappelez-vous la querelle du planning familial en France 2022, où le planning familial dit « Nous savons ici qu'un homme peut être enceinte. polémique, controverse. La ministre de l'égalité entre les sexes à l'époque, Madame Rome, si je ne me trompe pas, dit ceux qui sont en désaccord sont transphobes et font le jeu de l'extrême droite. Donc regardez, c'est un système qui fonctionne à l'adhésion idéologique, à l'adhésion ostentatoire, officielle en toutes circonstances. Donc je pense que nous n'avons pas retenu la nature, les leçons de l'expérience soviétique. Un dernier point, la question de l'antifascisme. L'antifascisme, évidemment, c'est bien. S'il s'agit d'être contre les fascistes, les nazis, on l'est tous. Du moins, je l'espère. Mais l'antifascisme qui a marqué nos sociétés, donc travaillé à l'origine, c'est quand même, c'était pas sans lien avec l'Union soviétique. Ben, François Furet a des pages tout à fait remarquables sur ça. Eh bien, l'antifascisme ne servait pas à combattre le fascisme. L'antifascisme servait à assimiler au fascisme ceux qui combattaient le communisme. Donc l'antifascisme, tel, et Raymond Aron l'avait vu magnifiquement dans les années 30, il le rappelle d'ailleurs dans ses mémoires. Et aujourd'hui, qu'est-ce qu'on voit? La matrice de l'antifascisme sert encore aujourd'hui à disqualifier tous ceux qui n'applaudissent pas chaque nouvelle étape de la révolution diversitaire, du régime diversitaire. Donc vous voyez, je pense qu'on n'a pas retenu toutes les leçons qu'on aurait dû retenir de l'expérience communiste au XXe siècle.
De ce qu'on sait des totalitarismes du XXe siècle, on a tous appris ça à l'école, il y a l'homme nouveau dont on parlait tout à l'heure, mais il y a aussi la figure de proue, le culte du chef. Est-ce qu'il y a un chef dans cette nouvelle, ce nouveau totalitarisme?
Si je peux me permettre, je suis plutôt en désaccord. Pour le nazisme, vous avez raison. Pour le communisme, oui, il y a Staline, mais quel est le propre de Big Brother? Big Brother, quand on relit Orwell, c'est un visage presque anonyme. C'est un visage presque anonyme. Et je pense que le propre du totalitarisme à l'Est, hein, des pays de l'Est, c'était justement un totalitarisme qui n'avait pas besoin, sauf le moment stalinien. Il y a le moment, il y a la momie, Lénine, il y a Staline, mais ensuite le système peut se passer de cette figure d'incarnation forte. Pourquoi? Parce que si le régime s'identifie à une incarnation forte, eh bien, lorsque cette incarnation disparaît, le régime s'affaisse. Donc, le propre du totalitarisme, je dirais, achevé, n'a pas besoin d'une figure sacralisée, sauf le grand ancêtre momifié. Ensuite, on s'entend bien, quand je parle des sociétés contemporaines, je ne décris pas des sociétés achevées, où le totalitarisme serait une fois pour toutes achevé. Je décris un processus, je décris un régime qui nous y conduit, mais des sociétés où il y a encore des libertés, des sociétés où il y a, je crois, c'est essentiel.
Il y a peut-être des figures anciennes, alors, peut-être.
Pour le temps présent?
Le temps présent, exactement.
Je sais pas, je vois pas la figure d'admiration absolue. Le régime nous offre de temps en temps ces nouveaux martyrs à admirer, d'une forme d'histoire victimaire, ça y a pas de doute, mais je ne vois pas l'équivalent, autrement dit, du camarade Staline. Mais cela dit, j'y vois la marque d'une tentation totalitaire perfectionnée. Parce que là, dès lors, le régime se maintient en lui-même par des slogans, par un dogme interprété par une caste d'interprètes officiels qui sont aujourd'hui... Vous savez, l'université aujourd'hui, c'est un peu la cléricature des temps présents. C'est le nouveau clergé avec les médias. Et de ce point de vue, ils peuvent se passer, le système peut se passer, en fait, de figures à vénérer. Sauf de temps en temps, on nous offre des figures à la Greta Thunberg, on peut en nommer d'autres, qu'on doit admirer obligatoirement, mais je pense que c'est pas le nœud du régime.
Et vous parliez d'un totalitarisme guidé par un idéal diversitaire. Mmh. Est-ce qu'à l'inverse, il pourrait exister un idéal conservateur? Et est-ce qu'il pourrait devenir lui aussi totalitaire?
Non, mais voilà pourquoi. Je dis pas ça parce que mon camp est meilleur que le vôtre, là, en guillemets. Le propre du conservatisme, bien compris, c'est qu'il sait que le mal au sens métaphysique, n'est pas lié à une institution humaine particulière qu'il s'agirait de faire tomber pour délivrer l'homme du mal. Le communisme dit que c'était la propriété privée. D'autres diront aujourd'hui, là, les Sandrine Rousseau de ce monde vont dire que c'est l'hétéro-patriarcat phallo-normatif, quelque chose comme ça. Ou encore d'autres vont dire que c'est la suprématie blanche. Bon, concept dont, par ailleurs, l'évolution est assez saisissante. Hein. Ça a servi, le concept de suprématie blanche a d'abord servi à désigner d'authentique racisme, c'est-à-dire globalement le Ku Klux Klan, et pour définir aujourd'hui, en fait, la démocratie libérale qui cacherait derrière son universalité les privilèges blancs. Bon, je laisse ça de côté. Le conservatisme dit « le mal est dans le cœur de l'homme ». Le cœur humain, il y a la tentation du bien qui est présente, il y a la tentation du mal qui est indéniable. De temps en temps, le cœur humain, l'homme est glorieux. De temps en temps, l'homme est monstrueux. La plupart du temps, il est médiocre. À partir d'une telle conception de l'être humain, vous arrivez assez difficilement à une société parfaite qui a besoin... Parce que si la société est parfaite, ben, dès lors, le moindre désaccord est un problème. Si vous éloignez de la perfection, c'est par définition, vous allez vers l'imperfection. Donc voilà pourquoi les sociétés totalitaires ou les idéologies totalitaires ont besoin de contrôler le discours, d'interdire ce qui pourrait fragiliser le dogme. Le conservatisme...
Il n'y a pas vraiment d'idéal.
Mais c'est pas un idéal.
Il n'y a pas une société, une utopie.
Ah ben non, surtout pas. Je pense que ceux qui ont eu cette tentation-là à droite, entre guillemets, Hayek, qui était une utopie davantage libérale. Il appelait ça, il croyait, d'ailleurs, il voulait réduire le politique au minimum. Il appelait ça la démarchie. Il voulait un politique, je dirais, minimaliste et autoritaire pour permettre une société de liberté maximale. Il y a des utopies libertariennes. Ça existe. L'utopie libertarienne, c'est l'idée d'une société délivrée de l'État où le marché harmoniserait naturellement les intérêts des uns et des autres. Bon, ça, j'y crois pas un instant. Non, ce qui menace le conservatisme davantage, c'est la tentation de la muséification. C'est-à-dire, ça, c'est la tradition, c'est bien, ça bougera pas parce qu'il faut pas que ça bouge. Et ça, c'est le drame, je dirais, d'une idéologie qui tend à sacraliser en toutes circonstances le déjà-là. Or, si on est dans une philosophie du réel, pour ça comme ça, mais le réel est toujours porteur de nouveaux possibles. Le réel en lui-même porte une part inédite. La liberté humaine veut quelque chose d'autre et quelque chose de neuf. Donc l'idée, le conservatisme bien compris, tel que je me le représente, c'est le souci de la continuité historique. Nos sociétés ne doivent jamais faire table rase. Ensuite, c'est la défense essentielle, mais dans le même esprit des libertés publiques, c'est absolument essentiel. C'est une société qui a le sens de son identité collective, mais c'est une société qui évite la tentation de la muséification. Ce pourquoi j'ai déjà dit dans des ouvrages antérieurs que dans une société bien faite, il y a un pôle conservateur, mais il y a un pôle progressiste. Il y a un pôle de l'enracinement, il y a un pôle cosmopolite, il y a un pôle de la liberté, il y a un pôle d'autorité. Bon, dans tout ça, moi, je suis dans le pôle conservateur. Mais la nature humaine est ainsi faite que des gens veulent autre chose que moi. Ça peut être désagréable, mais c'est comme ça. Et j'ai pas envie de les censurer, j'ai pas envie qu'ils se taisent. Je pense qu'ils apportent quelque chose de neuf à la société, de bon, de temps en temps, faut pas se tromper. Et une démocratie saine est une démocratie capable, justement, de tenir compte de l'équilibre de ces différents pôles. Le problème, c'est que le progressiste n'a pas tendance à reconnaître les mêmes droits au conservatisme et y voit au mieux des retardataires, des traînes la patte historiques, des gens qui n'ont pas encore compris, au pire des gens qui conspirent en fonction d'une conception mauvaise de l'être humain. Et là, la différence est fondamentale.
Alors, ce serait quoi le remède à ce totalitarisme que vous décrivez dans votre livre? Est-ce que c'est le conservatisme? Est-ce que c'est tout simplement la démocratie bien appliquée?
Dans les dernières pages, je cite Chesterton. Chesterton qui devrait être notre maître à tous et qui célèbre l'imperfection humaine, la beauté de l'imperfection humaine. Vous savez, dans l'espèce d'univers, j'en parlerai aussi dans la version qui va être dans le magazine de notre entretien, je cite un film des années 90, que vous n'avez probablement pas connu, qui est Demolition Man, qui est avec Sylvester Stallone et Wesley Snipes. C'est pas une référence cinématographique. Mais ça nous présente une société absolument aseptisée. Une société qui officiellement est parfaite. Donc, publiquement, les gens, ils n'ont pas de contact humain, ils redoutent les échanges de fluides. Quand ils font l'amour, enfin, ils ne se touchent pas. Ils ont chacun un coquillage sur la tête, puis une espèce d'échange de pensées psychiques, mais pour éviter de se toucher l'un l'autre, parce que ça pourrait être non hygiénique. Quand vous dites un gros mot en public, il y a une espèce de système de contrôle des paroles qui vous donne une contravention immédiate quand vous dites un gros mot. Bon, c'est pas... Et c'est la société idéale.
C'est le régime chinois, quoi.
C'est pas agréable. Oui, c'est le régime social, le crédit social. Mais là, si vous allez dans les souterrains de la cité, dans les catacombes, les égouts, ben les vieilles tentations demeurent. Donc vous avez des gens qui roulent globalement en diesel, qui mangent des burgers au rat parce qu'il n'y a rien d'autre à manger, qui se désirent et qui se touchent, et qui sont par ailleurs excessifs et grossiers et tout ça. Bon. Globalement, pourquoi je vous dis ça? Mais la réponse humaine, ce sont les passions humaines, la passion du banquet, le désir naturel qu'ont les sexes les uns pour l'autre, le plaisir de la conversation à la fois exagérée et civilisée, le plaisir du dernier verre, le plaisir du verre de trop, du verre de plus qui n'est pas le verre de trop, disons ça comme ça. La bête humaine résiste par définition à son enrégimentement, à son enfermement dans un modèle interchangeable où on devrait tous devenir des petits hommes gris interchangeables, répétés les mêmes slogans en toutes circonstances. Donc moi, je mise sur l'imperfection humaine qui est gardienne de notre liberté. Une forme de résistance anthropologique, en quelque sorte. Des amis qui se rassemblent ensemble pour faire un banquet. Et on leur dit, vous savez, pas trop, mangez pas trop, pas d'alcool, soyez vegan, s'il vous plaît. De grâce, ne parlez aucune conversation sexuelle, s'il vous plaît. Rien de tout ça. Et soyez absolument parfait, puis répétez le slogan diversitaire. Et qui se disent, non, pas du tout. Nous, on fait la fête et on la fait vraiment. Ça, je trouve que c'est le véritable siège de la liberté se trouve là.
Le bon vivant, quoi.
En gros, le gaulois, mais le gaulois au sens, l'esprit gaulois, que tous peuvent s'approprier, qu'on vienne, d'où qu'on vienne, pour peu qu'on embrasse l'esprit gaulois, c'est une bonne manière de devenir français ou de devenir québécois.
Alors moi, j'ai lu votre livre avec les yeux d'une Française, mais aussi d'une journaliste qui a l'habitude de se faire taxer d'extrême droite. Et vous en parlez beaucoup dans votre livre. Mais Question, j'aimerais parler un peu du Québec. Est-ce que ce totalitarisme sans goulag existe au Québec? Est-ce qu'il y a aussi ce même système de procès d'extrême droitisation?
Alors, ce système, il est présent partout en Occident. Je le décris dans son visage français, mais pas seulement. Vous noterez dans le dernier chapitre, pas la conclusion, mais le dernier chapitre, je donne des exemples en Grande-Bretagne. Au Canada, on prend au Canada, Justin Trudeau, vous savez, le Canada est un pays assez... C'est une démocratie sur le plan formel. Mais toutes les discussions fondamentales sur les questions anthropologiques et identitaires de notre époque sont à peu près impossibles à l'échelle fédérale. Le Canada de Justin Trudeau est véritablement, c'est le laboratoire du régime diversitaire. Mais puisqu'au Canada, c'est le pays où, je dirais, c'est le pays tranquille. Il se passe jamais rien, même quand il se passe quelque chose. On ne le voit pas. C'est un pays qui a réussi, à partir des années 90, à se présenter à tous à travers le monde, c'était vraiment dans la propagande de l'État canadien, comme le meilleur pays au monde. C'est un argument qui avait été utilisé pour casser les indépendantistes québécois, qui disaient on veut se séparer, on va avoir notre propre pays, on va avoir notre État indépendant. Puis Ottawa disait, comment pouvez-vous quitter le meilleur pays au monde? Bon, alors, donc je pense que si on regarde le Canada aujourd'hui, beaucoup de débats publics sont tout à fait impossibles. Je parle dans le livre de l'extrême-centre, c'est probablement un bel exemple d'une forme d'hégémonie absolue de l'extrême-centre. Et qu'est-ce qu'un conservateur canadien? C'est un libéral avec 15 minutes de retard, bon, à peu près. Le Québec est différent. Le Québec est différent sur ça, parce que le Québec, bon, premièrement, on a une autre culture, c'est quand même la base, c'est la culture, la base, c'est l'anthropologie. Le Québec débat, résiste à sa manière, à la québécoise. Les Québécois n'ont pas l'esprit fougueux des Français en matière politique. On est un peuple assez tranquille, on est un peuple assez consensuel, parce que l'histoire nous a appris que si on se divisait trop, on risquait de disparaître. Donc les Québécois ont le souci toujours de garder une forme de consensus familial. C'est là-dedans qu'on va débattre. Chaque génération, on peut se permettre un débat, mais pas deux, pas trois. Mais les Québécois, globalement, résistent au wokisme. Les Québécois, globalement, résistent au multiculturalisme, d'autant qu'il a d'abord été élaboré, petite information qui n'est pas inutile, pour les faire disparaître. Quand Pierre Trudeau, le père de Pierre-Éliott Trudeau, le père de Justin Trudeau, je dirais que c'est pas l'homme le plus stimulant intellectuellement de sa génération. Le père était un homme absolument déloyal à son peuple, au peuple québécois, mais c'était un homme intelligent. Le Canada, à partir des années 60, on doit redéfinir notre identité, d'autant qu'il ne peut plus se définir comme le plus fidèle soutien de l'Empire britannique comme il s'était longtemps voulu. La proposition qui revient de plus en plus, c'est biculturalisme et binationalisme et bilinguisme. Le pays des deux nations. Pierre-Éliott Trudeau était absolument opposé à ça. On dit non, pas deux nations, pas biculturalisme, multiculturalisme. La culture québécoise, l'identité québécoise ne sera pas une identité sur deux fondatrices du pays. Ça va être une identité parmi d'autres dans le Canada pluriel. Et dès lors que la culture québécoise disait il faut assurer le primat du français au Québec, les Québécois étaient accusés de suprémacisme ethnique. Pierre-Éliott Trudeau a déjà assimilé les indépendances. Il disait si l'indépendance du Québec se fait, ça va être un crime contre l'humanité, un crime contre l'histoire de l'humanité. Pourquoi? Parce que le Canada porte l'idéal d'un pays permettant à plusieurs peuples de cohabiter sans qu'aucun d'entre eux de dissocier le bien commun de la question nationale. Si le Canada échoue, eh bien, c'est un crime contre l'humanité. Dès lors, les indépendantistes québécois étaient accusés d'être porteurs de cela. Alors, dans ce scénario, je dirais que c'est un pays qui n'a pas nécessairement le sens de la démocratie le plus exemplaire. Pour ce qui est ensuite de la tentation totalitaire aux États-Unis, on la voit non seulement dans les campus, ça fait un bon moment qu'on le sait, mais regardez l'idéologie dominante dans le milieu, dans le capitalisme, dans les grandes entreprises. Il y a des États qui résistent davantage que d'autres à tout cela, mais cette tentation totalitaire, elle est parfaitement visible aux États-Unis aussi.
Est-ce qu'il y a une droite, une gauche, une extrême droite, une extrême gauche au Québec?
Non, alors ça se pose pas comme ça.
C'est souverainiste et fédéraliste.
Enfin, c'était longtemps indépendantiste et fédéraliste. Ensuite, c'est devenu, parce que bon, globalement, je vous le fais très rapidement, jusqu'en 1960, il y a un parti libéral, un parti conservateur, en gros. La question nationale de l'indépendance s'impose à partir des années 60 très rapidement. Donc le débat politique se refait. Indépendantiste, fédéraliste. Chaque camp est une coalition. Il y a des gens de droite dans le mouvement indépendantiste, au Parti québécois, le PQ. Ça fait toujours rire les Français, mais c'est comme ça. Donc au PQ, il y a des péquistes qui sont de gauche, de droite. Le PQ est globalement de centre-gauche. Et le Parti libéral, qui a des fédéralistes, est globalement de centre-droit. Ensuite, référendum en 1980, échec de l'indépendance. Deuxième référendum en 80 qui crève-cœur, parce que là, je vous donne les chiffres. Il y a 82% de Québécois francophones au Québec. 61% des Québécois francophones qui sont interpellés historiquement par la question nationale votent oui à l'indépendance, mais 99% des anglophones votent non, et autour de 90 à 95% des populations issues d'immigration, des communautés culturelles, comme on dit, votent non. Résultat, le camp du oui a 49,4, le camp du non a 50,6, on perd par 50 000 voix, puis il y a 94% de taux de participation, puis c'était pas un vote obligatoire. Ayez ça à l'esprit. Mais l'indépendance échoue une deuxième fois. Et le peuple n'échoue pas son indépendance sans en payer le prix. En 2003, les fédéralistes prennent le pouvoir à Québec. Puis là, les indépendantistes semblent installés dans l'opposition éternelle. Ils sont divisés, ils sont condamnés. Puis il y a une forme de défaitisme qui s'impose au Québec, le sentiment qu'on n'y parviendra jamais. Donc on veut parler d'autre chose, on cherche une autre solution. Un autre parti émerge dans les circonstances, un nouveau parti qui est la Coalition Avenir Québec, qui va être un parti autonomiste. Donc nationaliste chez nous, c'est pas méchant. Nationaliste, autonomiste, de centre-droit. Autonomiste, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on veut plus d'autonomie pour le Québec, mais on accepte le Canada, on accepte le lien fédéral. Ce parti est au pouvoir depuis 2018. Il a failli remplacer le Parti québécois, parti indépendantiste centre-gauche. Globalement, si vous étiez nationaliste avant, vous votiez Parti québécois, ensuite vous votez CAQ. Mais la Coalition Avenir Québec s'est plantée, globalement. Elle a fait quelques lois importantes, une loi sur la laïcité, qui n'est pas un détail. Elle a fait quelques mesures pour le français, mais la langue française. Mais globalement, elle a encore une fois buté sur la réalité du Canada, qui considère que le Québec, au mieux, est quantité négligeable, au pire, un suprémacisme ethnique qui, un jour, on devrait en finir avec ça, d'une manière ou de l'autre. Donc, dans ce contexte, qu'est-ce qu'on voit? La CAQ a échoué. Et on voit une renaissance aujourd'hui du mouvement indépendantiste, une renaissance du Parti québécois, une renaissance de l'idée d'indépendance au Québec. Depuis un certain temps, je vous avouerai, je suis assez optimiste pour mon pays. Ça fait longtemps que je ne l'ai pas été. Pourquoi? Parce qu'il y a un double choc qui se prépare. Le Québec a fait le choix, en 2018-2019, de la laïcité. La laïcité qui, chez nous, est vue à la fois comme un mode d'affirmation de la culture québécoise et de rupture avec le multiculturalisme canadien. Cette loi-là va être tôt ou tard invalidée par les tribunaux fédéraux, qui vont dire c'est anticonstitutionnel, c'est contre les droits et libertés, tout ça. Donc il va y avoir un choc constitutionnel autour d'une question identitaire centrale pour les Québécois. Ensuite, l'anglicisation de Montréal est un facteur très réel. Montréal, métropole française d'Amérique, est en train de devenir une ville française de langue anglaise. Et les Québécois sentent qu'ils sont en train, ils pourraient devenir minoritaires chez eux, qu'ils le sont déjà probablement dans leur métropole et tout ça. Donc là, l'inquiétude identitaire sur la question linguistique, le choc constitutionnel, cette idée que maintenant l'indépendance, c'est plus seulement une question de liberté, c'est aussi une question de survie. Si on ne fait pas le choix de l'indépendance, on risque à la fin du siècle d'avoir une folklorisation du peuple québécois qui deviendrait une forme de résidu identitaire étranger en son propre pays. J'en parle un peu dans le livre. Je pense que cet instinct de survie doublé du choc constitutionnel qui vient avec Ottawa est en train de ramener la question de l'indépendance au premier plan. Et je crois que d'ici une dizaine d'années, la question de l'indépendance va se trancher favorablement et que le Québec sera un nouvel État indépendant en ce monde. Et alors là, la France aura un rôle essentiel à jouer pour nous reconnaître en d'autres circonstances. Vous l'avez.
Posez-la.
1967, le général de Gaulle dit son « Vive le Québec libre ». En 95, il ne faut jamais oublier que tous les candidats importants à l'élection présidentielle soutenaient le mouvement indépendantiste québécois. Balladur, Chirac, Jospin étaient tous sympathiques au mouvement national. Gardons cela à l'esprit, ce sera nécessaire à nouveau bientôt.
Un message d'envoyer comme ça. Alors, sinon, à part vos intervention dans les médias français, vous restez encore beaucoup sur les médias québécois. Mmh. Est-ce que vous pouvez dire les mêmes choses là-bas qu'ici? Est-ce que vous abordez les mêmes sujets?
Ben, c'est pas la même société. Donc, évidemment, il y a des sujets qu'on aborde là-bas, qu'on n'aborde pas ici. Ça, moi, j'ai pas un discours... j'ai pas un discours prêt en main, clé en main pour Québec, Canada, France, Allemagne. Bon, chaque société a ses propres problèmes. Ensuite, ma pensée, la structure philosophique de ce que je pensais être ma pensée, là, tout le moins de mes opinions, est la même. Mais non seulement elle s'adapte, mais elle tient compte de réalités différentes. Vous savez, par exemple, les anglicismes. Ça m'énerve, mais ça m'énerve. Comme vous pouvez pas imaginer à quel point ça m'énerve. Mais ça pas la même chose, c'est pas la même chose chez vous et chez nous. Ouais. C'est-à-dire, chez vous, je pense que c'est une mode désagréable et détestable qui relève d'une certaine élite qui a l'impression de s'internationaliser en disant le print et le weekend et mon guest me dit insupportable. Mais c'est une mode. La structure de la langue n'est pas chez nous. Chaque fois qu'un mot anglais remplace un mot français, c'est notre langue qui nous devient étrangère. Mais moi, ce que je vois à Montréal, c'est non seulement les gens issus de l'immigration tendent à s'angliciser, mais pour une raison simple, ils arrivent en Amérique du Nord. En Amérique du Nord, la langue de référence, c'est l'anglais. Au Canada, comme je dis, pays bilingue de langue anglaise, c'est l'anglais. Puis à Montréal, à cause de la démographie, Montréal s'anglicise. Donc, je n'ai pas le même rapport aux anglicismes chez vous que chez nous. Ça m'énerve chez vous, et ça me rend... Mais chez nous, c'est existentiel. Bon, gauche-droite. Votre droite ici, globalement, porte une définition nationale, culturelle, identitaire, forte. Chez nous, la droite québécoise, le concept de droite était tellement incompris au Québec pendant longtemps que lorsqu'il s'est constitué, c'était strictement une droite économique, version patronale ou libertarienne. Bon, mais dans ce contexte-là, dans la configuration mentale québécoise, je me dis sans gêne conservateur ou nationaliste conservateur, mais de droite, ça veut moins...
Ça leur parle moins, quoi.
Ben, sur le plan général, oui, si la droite, si la gauche, c'est le parti d'utopie, puis la droite, c'est le parti du péché originel, OK. Mais ça, politiquement, ça ne veut pas dire grand-chose. Ce qui fait, puis par ailleurs, au Québec, la vie politique est ainsi faite que les gens Bon, moi, je ne suis pas membre de parti, je n'ai pas vocation de l'être. Mais des gens qui sont mentalement dans la même équipe que moi, on est en désaccord sur plusieurs questions, mais on est en accord sur l'essentiel. Puis même quand je regarde l'Europe, ça nous amène quelquefois à avoir des appréciations politiques différentes. Ici, je suis très, très proche, je dis des amis à droite, c'est pas un secret. Mais quand je regarde, par exemple, ce qui se passe en Espagne, soudainement, eux regardent Madrid, moi, je regarde Barcelone, et le fait est qu'on n'a pas nécessairement les mêmes sympathies. Mais cela dit, pour moi, les deux questions ne se recoupent pas. Le Québec n'est pas la Catalogne qui n'est pas l'Écosse. Il n'en demeure pas moins que les origines parlent aussi.
Et sur la forme de ce que vous dites, est-ce qu'un bad buzz est plus facilement arrivé en France qu'au Québec?
Oui, parce qu'il y a la culture du procès public ici. C'est-à-dire qu'il y a quand même des gens qui tournent dans l'espace public avec
qui
l'idée
vous attendent à la sortie comme ça.
Moins que d'autres. Quelquefois, ça m'arrive aussi, mais ça nous arrive à tous. Tôt ou tard, à un moment donné, ça va tous nous tomber dessus un jour. Ça va vous tomber dessus aussi.
Acceptez-le
d'avance. C'est inévitable. Parce que surtout que le bad buzz, normalement, naît d'une phrase qui est sortie de son contexte. En fait, moi, j'appelle ça le contexte de décontextualisation, recontextualisation. Donc, vous avez une phrase, vous la sortez de son contexte. Vous la faites circuler publiquement, vous l'inscrivez dans un autre contexte, qui est un contexte, vous prêtez par exemple à cette personne des pensées odieuses, et là cette phrase devient non plus ce que cette personne a dit sur un sujet X, mais ce que cette phrase veut dire de ces pensées secrètes, inavouées, coupables, qui seraient celles d'une pensée, une personne absolument terrifiante. Donc ça, c'est de la fabrique à des informations, qui est absolument fascinante. Rappelez-vous, il y a quelques années, moi ça m'avait bouleversé tellement que c'était idiot et malveillant. Finkielkraut est dans un débat sur la question de la culture du viol et ainsi de suite, et il dit, parce qu'on l'exaspère avec ça, il dit oui, je viole ma femme tous les soirs.
Voilà, je dis aux hommes, violez les femmes. D'ailleurs, je viole la même tous les soirs.
On comprend tout le monde que c'est faux, que la phrase se veut absurde. Le système médiatique isole la phrase. Transforme ça en polémique, transforme ça en controverse. Et là, tout le monde se positionne non pas sur sa phrase dans son contexte, mais sur la phrase recontextualisée. Et là, on est obligé de se demander si Fink pense vraiment ça ou non. Mais c'est absurde, c'est malveillant, c'est soviétique, c'est totalitaire. Et je me rappelle, j'avais écrit dans votre journal un papier sur cette question-là, tellement ça m'avait révolté.
On vous décrit souvent d'ailleurs comme polémiste. Est-ce que vous acceptez ce terme?
Bien sûr que non. Le terme polémiste est un terme très rarement revendiqué. Le terme polémiste est le nom que donne la gauche aux intellectuels qui ne sont pas de gauche. Globalement. Donc, à gauche, j'avais les intellectuels, à droite, vous avez les polémistes. À gauche, j'avais les humanistes, à droite, vous avez les gens qui cultivent la haine. Bon. Qu'est-ce qu'un polémiste? C'est quelqu'un qui cherche la querelle et la controverse en tant que tel. C'est pas mon cas. Moi, je suis persuadé d'aligner les évidences. Je suis globalement, ce que je vous dis, pour moi, c'est pas de la provoque, vraiment pas de la provoque. Je dis les choses telles que je les vois. Il se trouve que dans une société normale, il est vrai qu'on voit pas tous les choses de la même manière. Mais pour disqualifier un regard, on va coller à quelqu'un le mot polémiste, on va coller d'autres termes, extrême droite, on va coller tant et tant d'autres termes. Pour moi, ça relève de la stratégie d'étiquetage pour disqualifier les uns les autres.
Ça, c'est très français.
Oui, plus que québécois. Le mot polémiste est moins dans la culture chez nous. Il est utilisé de temps en temps. Mais c'est vraiment très fort. Parce que vu, mais ça, c'est vraiment Paris par rapport à la France. Puisqu'il y a l'importance cruciale de Paris. Et à Paris, d'être correctement étiqueté dans un système de respectabilité sociale et mondaine, où le fait d'appartenir à tel ou tel milieu peut vous changer votre vie d'une manière ou de l'autre, eh bien, il y a une surimportance accordée à la réputation des uns des autres. Moi, j'avais une fois élaboré cette petite théorie à deux balles. J'ai globalement une bonne partie de la vie intellectuelle se règle en fonction des tables où vous êtes invité à dîner. Bon. Et pour continuer d'être invité à tel ou tel endroit, il ne faut pas dire telle ou telle chose. Moi, je regarde ça, mais de ce point de vue-là, je regarde ça qu'un point de vue d'ethnologue. Ce sont des mœurs étonnantes de la tribu intellectuelle parisienne que j'admire. J'admire tant et tant de gens ici, mais cette dimension-là m'échappe toujours un peu. Enfin, m'échappe de l'intérieur. Je la vois de l'extérieur, mais moins m'échappe que me fait sourire.
Est-ce qu'on vous a déjà reproché au Québec des prises de parole en France?
Oui. Mais c'est pas la norme. C'est-à-dire, les gens sont pas fous, ils comprennent la différence des contextes. Quelquefois, certains vont dire, oui, mais en France, vous avez cité telle personne. Si vous citez telle personne, qui connaît cette personne, qui est d'ailleurs le beau-frère du cousin de l'autre, n'est-ce pas la preuve que... Oui, certaines...
Il n'y a pas un côté pas d'amalgame, ce que vous dites en France, parlez pas des Québécois comme ça, ça n'a rien à voir.
À propos des Québécois, un patriote assez primaire en ces matières. J'aime pas dire du mal des miens.
Vous faites des comparaisons, peut-être que
oui,
certains vous disent « Oh, bah, quand même, les Français, ils sont plus dans la mouise que nous, quoi », ou un truc comme ça.
Ça dépend. Vous savez, Ça dépend le point de vue. Il y a beaucoup, 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 beaucoup de Français qui se sont installés au Québec ces dernières années. Je vais me dire quelquefois, la blague, ceux qui ne sont pas venus jusqu'en 1760, les renforts sont arrivés trop tard. Bon. Mais ben, ils sont là aujourd'hui. On recevait auparavant davantage des héritiers d'Alain Perfitte, maintenant davantage des héritiers de Sandrine Rousseau. Bon. Mais une fois que c'est dit, je note que chez plusieurs d'entre eux, ils viennent trouver chez nous, parce que chaque société a ses avantages, viennent chercher la sécurité, viennent chercher l'ascension sociale, viennent souvent, moi j'appelle ça, j'en ai parlé à Face à l'info récemment, c'est la théorie des trois verres. C'est-à-dire au premier verre, pourquoi t'es venu au Québec? Ben, c'est l'ascension sociale, c'est l'Amérique. Au deuxième verre, pourquoi t'es venu au Québec? La sécurité quand même un peu. Le troisième verre, parce que je me sentais plus chez moi, je me sentais plus chez moi en France. Et ça, de gauche, de droite, ils peuvent le dire. C'est assez
fascinant.
Ça fait
de la peine à entendre.
Mais vous noterez, moi, ça, je le vois pour les femmes. Il y a le degré d'hypervigilance qu'ont les femmes lorsqu'elles sortent dans l'espace public, dans le métro, chez vous et chez nous, c'est pas le même monde. Il y a un sentiment, je dirais, de sécurité naturelle chez nous. Ça va peut-être évoluer. Vous savez, les sociétés occidentales connaissent à peu près toutes le même mouvement. Mais ça, je pense qu'il y a une plus grande sécurité. Mais il y a des problèmes à Montréal qu'on n'avait pas il y a quelques années. Mais globalement, c'est bon. De l'autre côté, si on regarde la France, le Québec, c'est une société très consensuelle. Hein. Donc ici, c'est la possibilité d'avoir des débats qui n'existent pas ailleurs ou de les mener librement. Il y a le côté de l'hyper-pragmatisme nord-américain, mais ici, c'est un peu le contraire. C'est-à-dire on sollicite la littérature, la philosophie, l'histoire, la géographie dans le débat public, puis on pense pas que ce sont simplement des références inutiles. On pense que ça alimente notre compréhension de l'être humain. Donc, je pense que chaque société a sa force et faiblesse, ça, y a pas de doute, mais pour l'instant, les Québécois savent distinguer l'une de l'autre.
Qu'est-ce que vous avez appris des Français? Est-ce qu'ils sont vraiment râleurs, comme on le dit?
Non.
Est-ce qu'ils sont pessimistes?
Oui.
Plus que d'autres? Quel est votre rapport avec
Alors, je le vois. Alors, c'est très particulier. On prête la phrase suivante au général de Gaulle, que la France serait belle sans les Français. Et moi, je pense, pas le contraire, au sens où je pense pas que la France serait... La France est belle par les Français. Le peuple français est un peuple formidable. Ça, moi, je le dis. La rumeur, la légende du serveur parisien chiant qui nous regarderait de haut...
Il existe quand même.
Il existe peut-être, mais franchement, il est bien moins pire qu'on nous avait dit. Et surtout, moi, il y a une chose qui me frappe chez les Français. Il y a un sens de l'amitié ici. Alors, vous savez, l'Amérique du Nord, c'est particulier. Les amitiés se nouent très rapidement, mais se dénouent aussi rapidement. Ici, quand une relation d'amitié se noue, elle demeure, elle s'approfondit. Je trouve ça émouvant. Il y a un sens de l'hospitalité qui est fondamental. Donc, genre, je trouve que les Français ressemblent assez peu à la mauvaise caricature qu'on en fait. Ensuite, qu'il y ait des... En chaque peuple, il y a sa collection de lourdeaux, d'imbéciles, des casse-couilles partout. Hein. Mais il y en a chez vous, il y en a chez nous. Mais franchement, la représentation caricaturale qu'on se fait du français à l'étranger est assez fausse, je trouve. Il y a un sens de l'hospitalité, une vraie chaleur. Donc non, je l'ai...
Mais pas trop pessimiste, le français.
Ah oui, non, mais ça, c'est autre chose. Non,
ouais.
Il y a des raisons.
Un peu pessimiste, non?
Vous avez eu, globalement, vous avez eu Saint-Louis, Louis XIV, Napoléon, De Gaulle. Vous avez été au cœur du monde. Aujourd'hui, ça se passe un peu moins bien. C'est normal de se sentir un peu en décalage de ce que le pays a été, premièrement. La chute est quand même réelle. Ensuite, vous tombez tellement haut que vous êtes encore plus haut que plusieurs. Ça demeure une patrie de référence. Globalement, ce qui se passe en France est important, pas seulement pour la France. Qui s'intéresse à la vie intellectuelle dans le monde, regarde ce qui s'écrit à Paris, à Londres, à Washington, à New York. Mais pas nécessairement. Il y a des villes, des pays qui ne sont pas au cœur du... Donc, Paris demeure un pôle essentiel. Là où je pense que la dépression française, c'est aussi le sentiment d'impuissance. Vous avez quand même traversé des épreuves immenses ces dernières années, on pourrait même dire plus d'une trentaine d'années, et vos politiques, globalement, font le contraire de ce que la population souhaite. Il peut arriver que ce soit nécessaire. Il y a des moments où il faut un politique qui va à l'encontre de son peuple. Bon. Mais quand on institutionnalise un système qui, globalement, traite le peuple comme une catégorie résiduelle et pénible, globalement, qu'est-ce que le peuple? C'est une collection de beaufs pas assez éclairés pour être capable de faire ce qu'il devrait faire. Et de ce point de vue, on a besoin d'une élite éclairée pour être capable de décommander, leur offrir le destin radieux de l'Union européenne. Là, c'est plus compliqué. Donc ça, je pense qu'il y a ça. Il y a le fait que beaucoup de Français se sentent désormais étrangers à leur propre pays. C'est quoi qu'on en dise, l'immigration massive n'a pas, pour reprendre la formule, n'a pas été globalement positive, comme aurait dit Georges Marchais en d'autres circonstances. Donc il y a ça. Je pense que les Français ont raison d'être un peu tristes de ce qui arrive à leur pays. J'aurais envie de leur dire, ne partez pas, restez. Il faut le reconstruire. C'est un pays magnifique qui mérite d'être sauvé. Mais c'est vraiment un pays magnifique. Ça, au fond des choses, globalement, le peuple français est un beau peuple. Je devine qu'on pourrait dire probablement ça de tous les peuples sur Terre, là, mais globalement, ce peuple... Puis même, j'ajoute un élément. J'ai beaucoup d'amis à moi qui viennent me voir ici. Ils ont la gentillesse de Québécois qui viennent me voir ici. Et puis, je leur présente mes amis, je leur présente mon milieu. Ils viennent globalement dans mon environnement. Et puis, chaque fois, ils sont... Tous. J'en ai pas un qui m'a dit ah, « les Français sont chiants, nous regardent de haut, tout ça ». Tu sais, il y a même le complexe chez les Québécois de l'accent. Puis on a toujours peur de pas être compris. Alors, ça nous est tous arrivé une fois de tomber sur un serveur à Paris où ça arrive qu'ils nous parlent en anglais plutôt qu'en français. Ça peut nous mettre de mauvaise humeur. Mais globalement, c'est pas la norme. Et puis, ils sont tous ensemble, mais ça se passe bien, finalement.
Ouais. Et dernière question, vous habitez en France actuellement. Et vous voyez revenir au Québec un jour? Est-ce que le Québec vous manque?
Ah, mais bien sûr. Attends, je suis ce qu'on appelle un expat.
Alors, vous savez, il y a une date de retour ou...
Il y en avait une la première année. Je crois que je venais ici pour un an. C'était, je croyais que j'arrivais en août 2021. Je repartais en juillet 2022. Les circonstances en ont voulu autrement et je ne m'en désole pas. J'en suis heureux. C'est un privilège immense qu'on m'accorde de permettre de participer à la vie publique comme ça ici, à la vie intellectuelle. Je le vis comme un privilège exceptionnel. Mais, je vous l'ai dit, moi, je suis un indépendantiste québécois, mais c'est viscéral. Ouais, pur et dur. Chez moi, c'est pas seulement une préférence politique. C'est de l'engagement qui a traversé mon existence. J'ai toujours été habité par ce rêve, mais cette idée que sans ça, mon peuple va mourir. Donc je crois, je vous le disais plus tôt, qu'on part vers le Québec, d'une manière ou l'autre, entre en crise constitutionnelle majeure avec le Canada d'ici quelques années. Je pense que cette crise-là aboutit à un scénario référendaire, c'est-à-dire la possibilité d'avoir un troisième référendum sur l'indépendance du Québec. Je pense que ce troisième référendum, nous pouvons le gagner. Oui, je vais en faire partie, surtout parce que nous pouvons le gagner. Je pense que mon peuple peut accéder à l'indépendance d'ici une dizaine d'années. Je pense que mon devoir élémentaire, parmi tant d'autres, là, je me crois pas essentiel à l'échelle de l'histoire, mais mon devoir, mon éthique personnelle me commande d'être là quand ça va se préparer, quand ça va se faire pour mener la bataille. Et à ce moment-là, il y a aucun doute que je serai au Québec parmi les miens pour mener la bataille de l'indépendance.
Peut-être un engagement politique?
Vous savez, la politique, c'est compliqué. Il y a plusieurs manières de servir sa cause dans l'espace public. J'ai des amis qui sont en politique. J'ai une estime infinie pour eux, dans plusieurs partis, soit dit en passant. J'ai des amis qui sont dans le parti gouvernemental actuel, la Coalition Avenir Québec. Je les appelle les indépendantistes malheureux. Hein, ils ont rejoint la Coalition Avenir Québec quand ils se sont dit que l'indépendance ne se ferait pas, donc aussi bien sauver ce qu'on peut. J'ai des amis au Parti québécois. Qui sont là, ils disent faut pas lâcher, puis aujourd'hui, ils sont en train de se dire ça redevient possible. Moi, j'ai une estime immense pour ces gens-là. Je crois pas avoir la vocation politique. Faut jamais dire jamais absolument, là, soyons sérieux. Mais je pense que je fais mon travail comme intellectuel, je fais ce que je peux dans l'espace public. Mais ce qui est certain, c'est quelle que soit la manière dont je mènerai cette bataille, je la mènerai, ça c'est certain.
Très bien. Et bien, merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions.
Merci à vous.